Chers amis, frères et sœurs, bienvenue à tous et à chacun, chacune pour ce moment de culte que nous allons vivre ensemble, en ce quatrième dimanche de l'Avent. En effet, cette période est le temps de l'Avent de Dieu, le temps où Dieu nous fait signe. Alors ouvrons grand nos yeux et nos oreilles. Dieu se montre, Dieu parle, regardons. Écoutons. Il est tout proche. L'Avent est le temps de l'écoute, le temps où lentement nous apprenons à recevoir Dieu, à découvrir les signes à travers lesquels il parle. Il est temps de nous mettre à l'écoute de la parole, de tracer avec le Christ un chemin de lumière pour nos frères et pour nos sœurs. Il en va comme au temps de la Genèse, aux heures du commencement. Tout n'est que désordre, chaos, et la terre semble informe et vide. Elle est enveloppée d'un voile d'obscurité, elle n'entend plus les paroles d'espérance. Lorsque tout s'éteint autour de nous, c'est alors seulement que l'on observe le mieux les signes, comme dans les nuits noires et étoilées. Aujourd'hui, dit Dieu, l'espérance va naître. Regardez, je vous donnerai des signes. Relevez la tête pour reprendre courage. Un enfant va naître. C'est le signe. Je vous invite à vous lever. La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que l'hiver et la nuit enveloppent le monde, voici qu'une étoile monte au ciel de l'Orient. Voici qu'approche l'heure où l'enfant nous est donné. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Amen. Nous voici rassemblés en ton nom. Nous louons Dieu avec le psaume 24. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Et nous chantons le psaume 47a, page 68, les strophes 1 à 3. Frappez dans vos mains.
Amen.
Prenez place. Bienvenue à ce temps de culte. C'est un dimanche un peu particulier, le quatrième dimanche de l'Avent. C'est presque Noël, mais pas tout à fait. Donc voilà, on est dans cette attente. L'attente se fait forte. Mais nous continuons, jour après jour, à progresser. Nous prions. En ta présence, Dieu très saint, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous adressons à toi dans le silence. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Viens nous purifier, agneau de Dieu. Viens renaître en nous, source de vie. Viens nous libérer, prince de la paix. Viens nous éclairer, lumière du monde. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Amen. Nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure. Parole de l'Évangile, Dieu a visité son peuple et accompli sa libération. Il nous a suscité une force de salut. Dieu nous accueille et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Tu consoles, tu pardonnes. Vous connaissez cette histoire. Un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus, et il lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qui est-il écrit dans la loi ?» L'homme répond « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui a dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Le maître de la loi demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» La suite du récit, tout le monde la connaît, c'est la parabole du bon samaritain. Ce matin, je voudrais vous raconter une autre histoire qui nous aidera encore à répondre à cette question « Qui est mon prochain ?» C'est l'histoire d'un vieux religieux qui demande à ses élèves « À quoi on peut reconnaître le moment ?» où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton ? Non, 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 dit le maître. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ? Non, toujours pas. Mais alors, quand est-ce donc ? Demandent les élèves. Et l'homme de répondre, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme ou femme, tu reconnaîtras ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Et nous chantons Transmet la nouvelle. Deux lectures pour ce jour, deux lectures tirées du lectionnaire, qui se situent toutes à un commencement. La deuxième est au commencement de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. Et la seconde est au commencement de la première épître, c'est-à-dire c'est les tout premiers versets de l'épître aux Romains. Mais avant de les écouter, nous prions. Notre Dieu, proche et aimant, au milieu des bruits, des voix qui s'élèvent, des discours de toutes sortes, fais-nous entendre ta voix. Dans la lecture des textes anciens, dans la méditation, dans la prière, fais-nous entendre ta voix. Par ton esprit qui illumine et inspire, inscris au plus intime de chacun, de chacune, la certitude de ton amour, l'assurance de ta bienveillance. Amen.
Romains chapitre 1, nous lirons du verset 1 au verset 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Matthieu 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit par « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.
Écoute, entends la voix de Dieu. Bon, ben ça y est, on a allumé la quatrième bougie de la couronne de l'Avent. On ne peut pas ignorer que Noël est tout proche, d'autant plus que nous avons eu la lecture de l'évangile de Matthieu qui raconte l'annonce faite à Joseph. Oui, parce que si dans l'évangile de Luc, c'est une annonce à Marie, dans l'évangile de Matthieu, nous avons une annonce à Joseph. L'annonce à Marie a lieu avant la conception, celle à Joseph un peu après. Donc nous voilà bientôt à Noël, et je ne pense pas, par ces paroles, vous surprendre. Bon. Il est de bon temps, en cette période de l'Avent, de poser la question évidente suivante: que représente Noël pour nous? Alors ne comptez pas sur moi pour déplorer le côté festif, familial et gastronomique du moment. Comme le rappelle le livre d'Ecclésiaste, « Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et l'auteur précisera un peu plus loin que c'est encore mieux lorsque ces choses sont faites avec ceux que l'on aime. Donc, inutile de jouer les rabat-joie, les aigris. Nul besoin non plus de culpabiliser parce que l'on fait bonne chère à Noël. J'imagine toutefois que vous me répondrez que Noël, c'est le temps dédié à la méditation, ou tout au moins à la commémoration de la naissance du Sauveur. Mais ce n'était pas le sens de ma question. La question fondamentale n'est pas ce que représentent les quelques jours de Noël, le 24 et le 25 décembre, mais que signifie l'événement fêté ces jours-là. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement touchant et porteur d'espoir, parce que finalement, toute naissance l'est ou devrait l'être. Si cette naissance a pris une dimension qu'aucune autre n'ait jamais prise dans l'histoire, même celle des grands hommes, c'est qu'il s'y joue quelque chose qui dépasse la simple histoire humaine. Pourtant, sur les quatre évangiles, seuls deux rapportent cet événement. Bien sûr, les deux autres la présupposent, mais ils n'en font pas mention. Permettez-moi d'ailleurs une petite digression. Il n'y a pas beaucoup d'événements que l'ensemble des évangiles rapportent. Il y a le baptême, la crucifixion et la résurrection. Et même dans sa version courte de l'évangile de Marc, la première version s'arrête même brutalement à l'annonce de la résurrection. Contrairement à une croyance populaire, la grande fête chrétienne a toujours été Pâques et non Noël. Mais cela ne change rien au fait que la naissance du Sauveur soit l'une des bases de la foi chrétienne, cette base qu'on appelle l'incarnation. L'apôtre Paul, au début de l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre, ne sépare pas la naissance de Jésus de sa résurrection, de sa naissance, de sa renaissance, si on veut faire un jeu de mots approximatif. L'une et l'autre sont liées. Entre les deux se dresse la mort sur la croix que Paul ne cite pas, mais qu'il sous-entend également. La naissance et la mort de Jésus font partie du lot commun de toute existence, humaine ou non. Et même si celles-ci connaissent, dans le cas de Jésus, des circonstances particulières, ces trois éléments, naissance, mort et résurrection de Jésus, participent d'une même foi, celle de l'incarnation de Dieu. Dieu est descendu parmi nous, Dieu s'est fait homme, ou plutôt humain. Voici des affirmations connues qui résument assez bien, quoique de façon assez paresseuse, le sens de Noël. Soit. Mais qu'en faisons-nous? Je reviens donc là à ma première question. Que faisons-nous de cette incarnation, de la venue de Dieu parmi nous? Que faisons-nous de l'information qui nous dit que le Dieu, tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'imagine, puissant, voire tout-puissant, omniscient, juge, terrible, mais aimant, choisissent de devenir l'un d'entre nous? Que faisons-nous de la révélation qui nous affirme que Dieu choisit la faiblesse, qu'il le fait non par nécessité, comme nous, mais par volonté libre? Le choix de la faiblesse chez Dieu n'est pas une résignation, ce n'est pas une impuissance, mais la volonté de la non-puissance, pour laisser à l'autre, c'est-à-dire aux humains, la place d'exister. C'est refuser d'utiliser sa propre puissance, non par lâcheté ou incapacité, mais par volonté de permettre à ses enfants de vivre la liberté et la responsabilité de leur choix. Ainsi, dans l'évangile du jour, l'ange qui apparaît en songe à Joseph ne lui donne aucun ordre. Il lui dit simplement « N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. N'aie pas peur. Agis selon ta conscience, selon ce que tu crois juste. » Le récit nous affirmait que fondamentalement, Joseph, le compagnon de Marie, était un homme bienveillant et juste. La révélation l'exhorte. Ne laisse pas tes craintes, notamment sociales, ni ton amour-propre, prendre le dessus sur ta conscience. Écoutant la prescription de l'ange, Joseph prend chez lui Marie. Préservant la jeune femme de tout soupçon, ricanement ou commérage, pratique courante dans tout voisinage qui se respecte. Joseph est ainsi le premier à faire l'expérience dans l'Évangile de la liberté accordée aux humains par Dieu en Jésus-Christ. Paul, l'apôtre, a lui aussi été mis en route. Le verset auquel je fais allusion est assez surprenant. Je vous le redonne. Pour que son nom, donc celui de Jésus, pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus a appelé. Autant le « vous » de ce verset est assez clair, il désigne les lecteurs romains de l'Épître, autant le « nous » est intrigant. Est-ce un « nous » de majesté assez surprenant ? Désigne-t-il Paul et ses compagnons, voire les apôtres officiels, les douze, ou inclut-il les lecteurs dans son apostolat ? Le titre d'apôtre n'est pas de ceux qu'on distribue largement, il est réservé à une élite, avec les guillemets que vous voudrez, des prédicateurs, des évangélisateurs. Paul lui-même a bataillé pour se faire reconnaître ce titre, lui qui n'était pas membre des douze, lui qui n'avait pas connu Jésus lors de son ministère terrestre. Il semble pourtant qu'ici, Paul attribue ce titre, habituellement réservé, à tous ceux qui ont été appelés par le Christ Jésus. Le terme « apôtre », j'imagine que vous le savez, vient d'un mot grec qui signifie « envoyé », ce qui laisse attendre un déplacement, un cheminement, une mise en route. Ce que ce passage de l'Épître semble suggérer, c'est que l'apôtre informe ses lecteurs romains, et à travers les siècles, nous, que tout appelé est de facto un envoyé, un responsable de premier plan de la proclamation de l'Évangile. La naissance et la résurrection qui révèlent ensemble le message de liberté de Jésus nous invitent à nous mettre en route pour annoncer cette bonne nouvelle. La naissance de Jésus n'est pas de celle dont on se réjouit lorsqu'on en reçoit le faire-part et dont on se contente de féliciter les parents. La vie de Jésus, de sa naissance, voire de sa conception, à sa résurrection, est le fondement de la liberté des créatures vis-à-vis du Créateur. Cette liberté n'est pas le signe d'une rébellion ou d'une rupture. Notre liberté, de façon paradoxale, n'est pas une révolte, mais une obéissance. Vivre libre est un commandement de Dieu. Alors, ça ressemble un peu à une double contrainte. Hein, vous savez, si j'obéis à l'ordre d'être libre, est-ce que je suis libre ? Et puis finalement, si je n'y réponds pas, est-ce que je ne serai pas libre ? En fait, parce que, bon, bref. Finalement, si je suis obligé d'être libre, suis-je libre ? Non. Non, mais rien ne m'y oblige. Toutefois, si je refuse cette liberté, si je reste sous l'esclavage de la loi, je suis contre toute logique humaine dans une forme de révolte. C'est là toute la subversion de la bonne nouvelle. Je suis obéissant lorsque je suis libre. Je suis désobéissant lorsque je suis soumis. Et ce n'est pas non plus une rupture. Dieu est présent à nos côtés lorsque nous faisons un usage, même mauvais, de notre liberté. C'est son nom même, Emmanuel, Dieu avec nous, qui en témoigne. En ces jours qui précèdent Noël, rappelons-nous que nous sommes invités, en tout temps et en tout lieu, à faire usage, bon si possible, de la liberté qui nous est offerte en Christ. Cette liberté n'est soumise à rien, ni aux préjugés sociaux, ni à notre orgueil ou vanité, ni au qu'en dira-t-on. Elle n'est soumise à rien, mais elle est responsable. Elle est responsable uniquement devant Dieu et devant notre conscience. Cependant, comme le rappelle l'apôtre, notre liberté ne peut se contenter d'être individuelle, ou pire, individualiste. Nous devons la proclamer afin que d'autres puissent s'en servir. Cette liberté radicale ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul rappelle à ses lecteurs, à travers les siècles, que pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu grâce et mission d'apôtre. À vous, qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 3104, 3104, page 310, 310, après la longue attente. Nous restons debout pour dire la confession de foi. Vous la trouverez sur le petit livret à la fin du cantique. C'est celle qui porte le numéro 7. Donc la dernière. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'être humain. Je crois qu'il a tout créé dans le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église. Signe d'amour et d'unité, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'être humain est déjà renouvelé. Et je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Chaque jour de ma vie. Prenez place. Dieu est puissant pour vous combler en toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. C'est maintenant le moment du don, le temps de l'offrande. Seigneur Dieu, accueille dans ta bonté cette humble part des biens que tu nous as toi-même donnés. Accepte-nous nous-mêmes à ton service comme le sacrifice vivant et saint que tu demandes, en communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pierre.
Bonjour à chacun, merci de votre présence. Merci à Yvon, Serge et Nicolas qui vous ont accueillis ce matin. Et merci à Marie-Vonne qui est à l'orgue. Des petites annonces. Je rappelle l'annonce d'Andrea de dimanche dernier. Elle vous a proposé de venir à la messe de Cuva dimanche 18 à 10h30.
18 janvier.
Oui. 18 janvier. Donc c'est dans le cadre d'un échange œcuménique. Donc si quelques personnes de la paroisse pouvaient aller à Cuva, et des personnes de Cuva viendraient à le culte suivant. À la sortie, il y a quelques pains quotidiens qui sont disponibles. Les pains quotidiens 2026, ils sont au prix de 11 euros. Mais voilà, si vous voulez donner plus, vous pouvez. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans la dernière ligne droite pour les dons, comptes. Pour qu'on puisse honorer notre cible 2025. Voilà, j'en ai 6 à disposition. Si jamais il n'y en a pas assez, ben, on peut en recommander. Il n'y a pas de souci. Je rappelle également que c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales. Si certains d'entre vous ne sont pas inscrits et qui veulent participer à la prochaine Assemblée générale et pouvoir voter, c'est le moment de le faire.
Date limite le 31 décembre.
Voilà. Et sinon, cette semaine, mardi, il n'y a pas prière, peut-être ?
Non, le matin, non.
Voilà, il n'y a pas prière le matin parce qu'on est dans les temps de vacances. Donc, par contre, mercredi, c'est pareil, on ne va pas faire la prière à 18h parce qu'il y a la veillée de Noël qui sera à 18h30. Et puis jeudi, c'est le jour de Noël, donc à 10h, le culte de Noël ici. Et dimanche prochain, le culte à 10h. Est-ce que j'ai oublié ? Ah si, j'ai rencontré hier, pendant ma tournée, à la résidence senior à côté du Pré-Fornet, madame, ça y est, je ne me souviens plus le nom, une dame qui est protestante de Lyon, voilà, et qui est là-bas. Donc on a discuté quelques minutes ensemble. Donc,
Loret, Georgette.
Comment ?
Georgette Loret. Ouais.
Georgette le Non, flûte.
T'as fait une faute d'orthographe, on met le message, du coup, je ne peux pas t'aider.
L'oreille ou l'ornet, quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être d'autres nouvelles des uns des autres. Merci. Et joyeux Noël à tous.
Nous allons maintenant partager le pain et le vin, le jus de raisin en l'occurrence. Chacune est le bienvenu s'il se sent appelé, quel que soit son sentiment d'indignité ou son appartenance ecclésiale. Nous ferons un cercle et nous passerons les éléments et nous les consommons au fur et à mesure. Vous pouvez déjà préparer le cantique suivant. Debout, le Seigneur vient. Une voix prophétique a surgi du désert, une espérance neuve se fait en nos vies, préparez-vous. Debout, le Seigneur vient, la parole se fait humaine, elle ébranle nos cœurs. La voici, le royaume qui s'approche, qui est là, réveillons-nous. Debout, le Seigneur vient, notre Dieu se fait grâce, sa table est préparée. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur vient. Père, il est juste et bon. Et c'est notre joie et notre salut de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que Marie attendait avec amour et celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révéler la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière, rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les peuples des croyants, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et je vous invite donc à chanter « Crains vos promesses ». Voici comment le Seigneur a institué son repas. Jésus prit du pain, après avoir remercié Dieu, il le rompit le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. Après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Il est versé pour que beaucoup soient pardonnés. » Nous prions. Père, nous célébrons ta venue. Nous vous savons encore. Père, nous célébrons la venue, la vie et l'œuvre, la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé. Et nous attendons le jour où il reviendra dans la pleine lumière. Dans ce temps de l'espérance, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, sa présence nous soit donnée et que nous vivions de sa vie. Unis-nous dès ce jour dans la joie de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, dans la joie et dans la communion du Saint-Esprit, nous te rendons tout honneur et toute gloire, à toi, notre Dieu et notre Père, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Jésus nous invite, vous qui reconnaissez sa voix, ouvrez-lui la porte, communiez avec lui et les uns avec les autres pour former un seul corps. Venez, car tout est prêt. La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Seigneur, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi dans ton Église. Pour que ta volonté soit faite, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous à l'unité parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur. pour la simplicité de ce pain et de ce vin. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la proximité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Rends-nous porteurs de justice, de paix et d'amour pour que nous préparions ton retour. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession et de prendre ce répond. Seigneur, nous te prions comme refrain. Dieu notre Père, Père de tendresse, ce matin nous te prions pour ceux qui, comme Joseph et Marie, ne trouvent pas de place pour se poser, ceux qui trouvent porte close et cœur fermé. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui, comme l'enfant Jésus, naissent dans la misère et le dénuement, sans avenir, abandonnés, seuls. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui, comme les bergers, ne comprennent pas tout ce qui leur arrive, ceux qui ont peur et qui se cachent. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui, comme les mages, doivent se désencombrer des idées reçues et des sagesses apprises. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui, comme Hérode, ne croient qu'au langage des armes, à la force brute et au pouvoir aveugle. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, comme la famille de Jésus, doivent fuir leur pays, sauver leur vie, étrangers en quête d'une terre d'accueil. Le Seigneur nous a fortifiés par sa présence, sa parole et son repas. C'est pourquoi il peut maintenant nous envoyer avec sa présence dans notre vie quotidienne. Seigneur, sur nos chemins, fais qu'aujourd'hui, demain, nous voyons resplendir sous le soleil, sous la pluie, ton arc-en-ciel de vie, ton bienveillant sourire. Oui, Seigneur notre Père, en Jésus notre frère, au souffle de l'amour, rayonne, ô notre Dieu, sur notre humanité, jusqu'à la fin des jours. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix, dans l'attente de sa venue. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année.